Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Sortez en direct sur Radio Campus Tours et en direct et non, la déformation, déformation professionnelle. Évidemment, nous ne sommes pas en direct, nous sommes en différé, c'est une émission enregistrée où nous allons recevoir évidemment dans quelques instants le Théâtre Olympia avec son directeur, vous allez découvrir ça tout à l'heure. Mais avant ça, je reçois Axel Nadeau qui vient donc nous parler d'un événement qui va se dérouler à jouer les tours, à l'espace Malraux, ça s'appelle Coverama. Au temps machine, pardon, pas à l'espace Malraux. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai reçu l'espace Malraux et je devais avoir le temps machine en même temps, donc forcément, la confusion, le lapsus, mais en tous les cas, au temps machine, ça s'appelle Coverama et je vais te laisser donc en parler.
Oui, salut Julien, merci pour l'invitation déjà.
Avec plaisir.
Là. Et donc oui, ça se passe au Temps Machine ce samedi, on a le plaisir d'accueillir des groupes quand même pour faire des concerts, vous vous rendez compte, non mais quelle chose incroyable.
Avec le Covid, des concerts.
C'est fou, vous vous rendez compte, il y a trois groupes qui vont se produire en concert et puis il y a une exposition, il va y avoir une table ronde autour de la culture et la Covid. Voilà, et un salon, alors bon, ça fait beaucoup de choses, c'est pour un événement qui s'appelle Coverama, voilà. Alors Coverama, c'est un projet dont j'ai déjà eu l'occasion de venir parler ici, un projet solidaire en fait autour de la musique locale. C'est un livre dans lequel on trouve 50 pochettes d'artistes locaux des 10 dernières années, et pour fêter la sortie de ce livre, eh bien on a créé tout un événement autour de ça, voilà.
C'est donc un livre qui a été financé, c'est donc financé par les... Donc des contributeurs privés, c'est ça ?
Exactement. Donc c'est un livre qui contient, comme je le disais, 50 pochettes d'albums d'artistes tourangeaux sur ces 10 dernières années. On a eu l'idée, en fait, avec une agence de communication de Tours qui s'appelle Descheval, de réunir ces pochettes dans un livre et de distribuer les bénéfices à des artistes locaux via des dispositifs d'accompagnement qui existent déjà et qui sont celui du Temps Machine, de Tous en Scène et de Jazz à Tours. Voilà, l'idée, c'était de réunir des sous pour pouvoir permettre d'aider la création, d'aider éventuellement le travail de répétition, le travail de concerts, etc. Donc, il y a plein de gens qui se sont réunis, les bibliothèques de Tours, les écoles de musique, Béton, Campus, etc., pour désigner les pochettes de façon tout à fait subjective, les pochettes qui leur plaisaient bien. Et on a réuni tout ça dans un livre. Et effectivement, ça a été possible grâce à l'aide et des contributeurs qui ont participé via le site KissKissBankBank et qui ont aidé à financer ce livre. Et donc, chaque contributeur va recevoir un livre chez lui ou pourra venir directement le chercher ce samedi au Temps Machine. Et évidemment, samedi au Temps Machine, on aura plein à vendre.
Donc voilà, c'est un livre qui a été... L'idée vous est venue quand, l'idée de ce livre ?
Ça nous est venu pendant le confinement, c'est mon ami Cédric, donc de l'agence Descheval et d'un magazine qui s'appelle WeMag, qui m'a appelé en me disant « Écoute, ce serait quand même bien qu'on crée un projet un petit peu fédérateur autour de la scène musicale locale, à la fois pour réunir de l'argent, mais aussi pour se retrouver un petit peu, voilà, pour créer une petite émulation autour d'un projet. » Et on s'est lancé dans cette idée autour de l'image, finalement, parce que c'est vrai que les pochettes de disques, il y en a de très grande qualité, et puis aujourd'hui, on s'attarde peut-être pas suffisamment dessus, on les voit passer sur nos téléphones, et voilà, des fois on a l'occasion d'acheter un vinyle, un CD, mais c'est pas toujours le cas. Et là on avait envie de mettre en valeur ces œuvres-là, les artistes aussi, graphiques, illustrateurs, illustratrices. Et donc on est parti sur cette idée-là, c'est un projet qui nous a pris quelques mois de travail quand même, et on a pris énormément de plaisir à le faire, puisqu'on a rencontré des artistes, on a rencontré tout un tas de gens du milieu culturel local, et c'était vraiment un plaisir.
Et donc, ce livre et ces livres vont être édités en édition limitée, c'est ça ?
Oui, absolument. On l'a édité uniquement à 500 exemplaires. Chaque exemplaire est numéroté à la main. Donc, on en a déjà pré-vendu. En fait, il y en a déjà beaucoup qui ont été pré-commandés. Et on va pouvoir en vendre une bonne partie également ce 26 septembre, ce samedi-là, au Temps Machine.
Et donc, les pochettes présentes à l'intérieur ne sont pas communiquées encore ?
Effectivement, elles ne le sont pas, tout à fait.
C'est la surprise.
Ouais. Ouais, les gens qui ont précommandé le livre ne savent pas les pochettes qu'il va y avoir dedans. Alors après, il y a des petits indices, parce qu'on a dévoilé quelques petits montages où il y avait des pochettes dedans. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est la surprise. On a essayé de représenter un maximum d'artistes. Un artiste n'est présent qu'une seule fois dans le livre. Et on a essayé d'en mettre 5 du coup par année. Et voilà, mais en fait, il y a une telle diversité, une telle richesse qu'on n'a pas pu mettre tout le monde. On aurait bien aimé, mais on aurait fait un dictionnaire. Voilà, donc on en a quand même sélectionné. Et au final, ouais, ça donne un truc assez complet et qu'on l'espère qu'il plaira beaucoup, qu'il fera un beau souvenir.
Et donc, les artistes qui sont présents dans ce livre, certains seront présents au Temps Machine?
Alors, il se trouve qu'au final, sur les trois artistes qui jouent ce samedi au Temps Machine, il n'y en a qu'un seul qui est dans Coverama.
On ne dira pas lequel, évidemment.
Voilà. Mais donc, ce samedi, effectivement, on a vraiment la grande joie de pouvoir faire des concerts au Temps Machine et des concerts de groupes avec du monde sur scène. Hein. Ça va être des groupes formation rock et tout, avec du monde. Et donc, on aura Raphaël Guattari, qui est un groupe donc accompagné par le Temps Machine. On aura Les Pompiers, accompagnés par Jazz à Tours. Et on aura Moon Backstage. Voilà, accompagné par Tous en scène. Donc ces trois groupes-là vont jouer samedi. Et donc on aura aussi d'autres propositions, parce que ça commence dès 14h. Donc de 14h à 17h, il va y avoir un salon autour en fait de la professionnalisation, si je peux dire ça comme ça, de la musique, où les groupes en fait vont pouvoir venir et rencontrer. Alors il y aura Figure Libre, donc c'est ceux qui s'occupent des locomotives de Vendôme. Il va y avoir les formations d'Issoudun, Jazz à Tours, Tous en scène, Le Temps Machine, pour discuter de leur projet musical et voilà et poser toutes les questions qu'ils auront envie de poser. À 17h, il va y avoir une table ronde autour du Covid et de la culture qui sera animée par Mathieu de 37 degrés, qui est donc un média local. Et on voit là, on va discuter de dans quelle situation délicate aujourd'hui se trouve le milieu du spectacle vivant et plus globalement le milieu de la culture. Quelles sont les attentes de ces acteurs-là, quel est l'horizon? Il est quand même assez sombré en ce moment. Il va y avoir ensuite une exposition où toutes les pochettes de Coverama vont être exposées au Temps Machine. Et puis après, les concerts. Voilà. Voilà un gros après-midi, du coup, de 14h à environ 23h.
Est-ce que c'est donc ce projet donc qui tourne autour de la musique, est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse évoluer, tourner autour de d'autres sujets avec un autre support que donc des pochettes d'albums, mais par exemple avec des affiches de cinéma, des affiches de spectacles, ce genre de choses?
Bah pourquoi pas, ça pourrait. C'est vrai que nous, on était très très focalisés sur la musique, mais il y a tout un tas d'artistes audiovisuels, graphistes, etc. sur Tours qui existent. Et l'intérêt premier de Coverama, au-delà vraiment de réunir de l'argent, parce qu'au final, on n'en a pas réuni non plus énormément, mais c'était surtout de mettre en valeur cette scène-là, de mettre en valeur ces artistes-là et de créer une sorte de petit témoignage, même imparfait, comme ça, de la richesse culturelle locale. Et c'est clair qu'on peut le faire sur d'autres arts que la musique, ça c'est certain. Alors ce sera peut-être pas nous qui le ferons, mais j'espère qu'en tout cas il y aura d'autres objets de cette sorte-là pour continuer à perpétuer l'héritage local.
En tous
Voilà.
les cas, l'appel est lancé. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à monter. Ça peut être un projet intéressant. Ouais. À la suite de Coverama 2, peut-être. Est-ce qu'un
Coverama 2.
jour il verra le jour? On verra bien. En tous les cas, merci beaucoup, Axel, d'être venu nous présenter
Merci à toi,
Coverama.
Julien.
Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos auditeurs?
Bah écoutez, le 26 septembre, ce samedi au Temps Machine, vraiment venez nombreux, c'est gratuit, ça je ne l'ai pas précisé. C'est gratuit, ça commence à 14h. Si vous faites de la musique, n'hésitez pas à venir pour rencontrer tout un tas de monde, parler de votre projet. Voilà, dès 17h, la table ronde, ensuite l'exposition et puis les concerts le soir, c'est gratuit. Il y a peu d'événements qui sont maintenus en ce moment. Voilà, on sera content de vous voir. On a besoin aussi de votre soutien pour montrer que la scène locale existe. Donc voilà, rendez-vous ce samedi 26 septembre, au Temps Machine dès 14h.
Voilà, et profitez-en. Tout de suite, on va écouter donc Raphaël Guattari. Voilà, on en a parlé.
Guattari, ouais.
Guattari, pardon, avec son titre Canicule qui est sorti il y a 2 mois. On va écouter ça tout de suite. Et dans moins de 3 minutes, on se retrouve avec le directeur du théâtre Olympia dans votre émission. Sortez, à tout de suite.
Il faisait chaud, c'était la canicule. Tropical sous l'abribus. Toi et moi, chérie, ce n'était pas si nul. Mais j'ai gardé toutes mes mauvaises habitudes. Je tue le temps sans schéma précis. Joint dans le bec, l'état d'esprit est léger. J'ai mon équipe, j'ai mon paquet de camel et ça me suffit. J'écris des textes et je bois mon verre. Je pars en showcase et je récite demi de 16, bédo de verre. Ça, c'est mon putain de régime, insolent comme à l'école. Lèche le collant de la feuille, tire deux, trois tafs et ça décolle. Demain, on aura oublié la veille. J'avais des rêves avant, mais tout s'évapore. Je ne sais pas comment inverser la vapeur. J'avais des rêves avant, mais tout s'évapore. Je ne sais pas comment inverser la vapeur. Il faisait chaud, c'était la canicule. C'est posé au débit de boisson. Je me sens béni, c'est momentané. Je suis du père de toutes les façons. Toujours la clope au bec, un méga pilon. Gamin problématique depuis l'école élémentaire. Ouais, j'ai l'air fort en mathématiques que quand il faut compter l'oseille, boy. Tu sais que c'est mort, y'a rien qui va tomber du ciel. Non, 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 non. J'avais des rêves avant, mais tout s'évapore. Je ne sais pas comment inverser la vapeur. J'avais des rêves avant, mais pour l'instant ça va. Je bois mon féca sous le soleil, billet froissé dans la poche. Il faisait chaud, c'était la canicule. Canette d'oasis tropicale sous l'abribus. Toi et moi, chérie, ce n'était pas si nul. Mais j'ai gardé toutes mes mauvaises habitudes. Il faisait chaud, c'était la canicule. Canette d'oasis tropicale sous l'abribus. Toi et moi, chérie, ce n'était
Nous sommes de retour dans votre émission Sortez, toujours en direct, et non, pas en direct, je me trompe à chaque fois, nous ne sommes pas en direct, nous sommes en différé, mais l'émission sera bel et bien diffusée vendredi à partir de 16h, et là nous sommes, comme je vous l'ai déjà dit au préalable, avec monsieur Jacques Vincé, qui est donc le directeur du Théâtre Olympia. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être sur Radio Campus Tours, de venir parler donc de ce théâtre et de votre pièce, Les Serpents. On y reviendra tout à l'heure, mais on va donc évidemment commencer par parler du théâtre. Et de ses origines, le Théâtre Olympia, qu'est-ce que c'est ?
Alors le Théâtre Olympia, au niveau du bâtiment, c'est un théâtre qui a été construit en 2003, en plein cœur de Tours, rue de Lucé. C'est une petite rue qui est parallèle à la rue Nationale, qui donne dans la rue de la Sellerie. Donc c'est un quartier historique et c'est un théâtre qui a une architecture absolument contemporaine. C'est du verre, de l'acier, c'est une très belle architecture. Et surtout, ce qui est très important, c'est que c'est une très belle salle de spectacle de 450 places. Dans laquelle le rapport scène-salle, alors c'est un peu technique, mais ça veut dire plus concrètement que quand on est sur le plateau, on a l'impression d'avoir les 450 spectateurs tout près et réciproquement, c'est-à-dire que les spectateurs, même assis au dernier rang, ont l'impression d'être sur le plateau avec les acteurs, ce qui est très important. Voilà pour l'architecture. En ce qui concerne le théâtre lui-même, c'est un centre dramatique national. Alors ça peut faire un peu peur, son dramatique national, on se dit dramatique, oh là, on ne va pas se marrer. Effectivement, c'est un mot qui est un peu vieilli. Évidemment que c'est un théâtre dans lequel on présente des spectacles. À la fois, c'est un théâtre de création, où on crée des pièces, où on produit des nouvelles pièces, de nouveaux spectacles, et où on accueille des spectacles qui ont déjà été créés ailleurs et qui viennent se poser, là en l'occurrence, à Tours. Centre dramatique national, ça veut dire en fait, tout simplement, c'est un réseau de théâtres public, donc subventionné par la métropole, l'État, la région, le département, qui nous permet de faire un théâtre de, comme je disais, de création, mais donc avec une exigence qu'on n'a pas toujours les moyens d'avoir quand on est dans le théâtre privé, donc soumis à des contraintes de rentabilité. Ça ne veut pas dire qu'on fait des spectacles, encore une fois, dramatiques et qui pourraient être ennuyeux, mais ça veut dire qu'on peut se permettre d'inventer des formes nouvelles, d'inventer le théâtre de demain. Et le théâtre, c'est un art vivant. Et si on n'a pas tout le temps la possibilité de faire un pas en avant, un pas dans le vide, un pas vers ce qui n'existe pas encore, eh bien, on perd un peu la raison d'être de ces endroits.
Donc, il y a de nombreux types de théâtre, de nombreux types de pièces à retrouver au Théâtre Olympia à Tours ?
Absolument. J'essaye, chaque année, je dis que j'essaye de composer un bouquet de programmation, c'est-à-dire un bouquet, il y a des fleurs de toutes sortes, des fleurs très colorées, des fleurs, il y a des fleurs noires aussi de temps en temps, mais il y a des fleurs très sensuelles, des fleurs très odorantes, des fleurs vénéneuses, on parlera des serpents tout à l'heure, de manière à ce que les 15-19 spectacles qu'on présente la saison prochaine, les gens puissent avoir un panel de choix, et puis évidemment que si ils voient tous les spectacles, et bien de spectacle en spectacle, ils découvrent une nouvelle fleur, un nouveau parfum de ce qu'est la création contemporaine.
C'est un petit peu l'objectif du théâtre aussi, l'objectif de l'art en général, de découvrir des choses différentes.
Oui, et encore une fois, ces théâtres publics qui ont la particularité, les centres dramatiques nationaux, d'être dirigés par des artistes, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que je suis metteur en scène et directeur. En fait, j'ai été nommé en fonction de mon parcours d'artiste. Et donc, évidemment, ce qu'on me demande dans un théâtre comme celui-là, c'est d'une certaine manière d'insuffler un geste artistique qui passe par mes créations, mais pas seulement sur la programmation. Évidemment que mon goût, mes aspirations, mes admirations, parce que j'essaye aussi d'accueillir des autres metteurs en scène dont j'admire le travail et l'exigence artistique.
Donc la programmation du Théâtre Olympia est un peu à votre image, Jacques Vincey.
Oui, alors en même temps, c'est pas la programmation de Jacques Vincey pour se faire plaisir.
Évidemment.
C'est ce à quoi je pense évidemment toujours, c'est aux gens à qui je m'adresse. Et j'en reviens à l'idée de panel, c'est-à-dire que j'ai bien conscience du fait que, heureusement, tous les goûts sont dans la nature et qu'il faut aussi pouvoir proposer à différents spectateurs, différentes esthétiques. Et je pense que, encore une fois, c'est ce qui fait la richesse de ces structures et du Théâtre Olympia en particulier.
Le Centre National Dramatique, le Centre Dramatique National, c'est dans l'autre sens, est-ce qu'il fait de la formation ou est-ce qu'il permet à des jeunes metteurs en scène ou des jeunes acteurs de se lancer dans une carrière?
Alors c'est une question très intéressante parce que le Théâtre Olympia a la particularité non pas de faire de la formation, mais d'accueillir en son sein, c'est-à-dire en tant que permanent, chaque année, 5 comédiens et comédiennes et 2 techniciens qui sortent des écoles nationales ou du conservatoire de Tours et d'Orléans. C'est-à-dire que c'est une opportunité très rare pour des jeunes artistes ou des jeunes techniciens que de rentrer directement dans ces institutions en tant que permanent. En tant que permanent, ça veut dire que ils ont le temps et la possibilité de développer tout ce qu'ils ont appris à l'école, tout ce qu'ils ont abordé, tout ce qu'ils ont aussi eu envie de faire à l'école et qu'ils n'ont pas eu encore la possibilité de faire. Donc d'abord, pour les comédiens et comédiennes, c'est jouer, donc se retrouver sur des plateaux, en tournée. Et puis, on leur propose aussi de développer des projets personnels, on leur propose de programmer un festival de jeunes créations, ce festival WET, qui a lieu chaque année. Normalement, et là effectivement cette année il était prévu au mois de mars, mauvaise période, on l'a reporté au mois d'octobre, et au mois d'octobre c'est toujours une mauvaise période, donc on fera une édition augmentée du Festival WET en mars prochain. Donc voilà, ces jeunes sont quand je dis au cœur du théâtre, c'est-à-dire que c'est très important aussi pour le Théâtre Olympia d'avoir ces jeunes gens entre 25 et 30 ans qui arrivent avec de nouvelles envies et qui renouvellent, puisqu'ils sont là pour une durée de 2 ans. Tous les 2 ans, c'est des nouveaux qui arrivent et qui, nous aussi, en tant que permanents d'un théâtre, nous bousculent, nous arrivent avec à chaque fois de nouvelles envies, des nouveaux désirs, des nouvelles colères, des nouvelles... Et tout ça, c'est très, très riche et fécond.
Et ça doit être stimulant d'un point de vue artistique.
Bien sûr, et je travaille systématiquement avec eux. L'année dernière, j'ai monté L'île des esclaves de Marivaux, donc un classique. Mais quand vous parlez stimulant, c'est vrai que ce classique, qui est une magnifique pièce, les classiques, le principe, c'est que ça reste vrai en traversant le temps. Il y a toujours quelque chose qui nous raconte le présent. Mais j'ai poussé le bouchon plus loin en me disant, bon, on monte cette pièce avec 5 tout jeunes artistes. Qu'est-ce que ces jeunes artistes ont à dire aussi de ce classique? Et donc, l'île des esclaves que j'ai montée est augmentée, encore une fois, d'un épilogue où je donne la parole aux interprètes pour qu'ils se positionnent par rapport à ce qu'ils viennent de jouer. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup un retour sur le réel, un retour sur leur perception, leurs engagements, parce que l'île des esclaves est une pièce très polémique, en particulier sur la thématique maître-esclave, donc bon... Encore une fois, c'est éternel, mais il y a des choses évidemment spécifiques à dire maintenant quand on a 25 ans sur ce sujet.
une pièce qui va se mettre en place donc, au Théâtre Olympia. Comment ça se passe? Donc, vous nous avez expliqué que vous choisissiez, que vous repériez certaines pièces. Mais si moi, je suis metteur en scène, que j'ai envie de me produire au Théâtre Olympia, est-ce que je le peux? Comment je dois m'y prendre?
Alors, les centres dramatiques nationaux, comme je disais, il y en a 38 en France. On a pour mission, puisqu'on est un service public, de présenter la création théâtrale contemporaine dans sa plus grande exigence. Ce qui veut dire que on peut être très exigeant quand on a 25 ans et qu'on démarre. Je parlais de ce festival Wet, on a vraiment teinté ce Théâtre Olympia de la jeune création, des jeunes créateurs qui sont vraiment une spécificité de ce centre dramatique dans la carte de France des autres centres dramatiques. On a vraiment identifié comme vraiment tendant la main à ce qui s'invente maintenant. Mais on est aussi, évidemment, on se doit, comme je disais tout à l'heure, de présenter d'une certaine manière ce qu'il y a de mieux dans le paysage théâtral. Donc, du coup, ça veut dire qu'une jeune compagnie, pour répondre à votre question plus précisément, c'est vrai qu'on ne programme pas une compagnie comme ça sans connaître les gens, sans avoir vu leur travail. Évidemment que c'est un parcours qui se fait petit à petit. On va voir les spectacles, on en discute, on s'engage ou on ne s'engage pas. Parfois, ça prend du temps, parfois, ça va beaucoup plus vite. Mais voilà, on se doit de faire très attention à qui on programme.
Parce que vous avez un nom, si je puis dire, et donc forcément, il en va de votre réputation aussi de proposer des pièces toujours d'une très très bonne qualité, évidemment.
Oui, c'est pas tant encore une fois une question d'ego, hein. C'est plus... moi, je suis très heureux de cet endroit où je me retrouve là actuellement, après avoir eu un parcours d'acteur pendant plus d'une dizaine d'années. J'ai été ensuite directeur d'une compagnie indépendante et metteur en scène. Et puis là, je me retrouve avec cette nouvelle responsabilité de diriger une institution, en plus de mon métier de metteur en scène. Et je trouve ça passionnant de... immerger en fait mon univers artistique dans une réalité qui est la réalité d'un territoire. Ce qui se passe à Tours n'est pas la même chose que ce qui se passe à Rennes ou à Béthune, et d'essayer de trouver l'alchimie entre mon univers et une réalité. Et c'est dans ce croisement que je trouve qu'il y a énormément de richesse, de friction parfois, mais vraiment je revendique toujours que le théâtre est un art vivant, et pour être vivant, il faut parfois aussi se friter, il faut aussi parfois ne pas être d'accord. C'est très important de ne pas, être toujours tous dans un même sillon. Donc voilà, il y a cette effervescence et qui naît ces étincelles parfois qui naissent du frottement du réel et du rêve est un endroit qui me plaît beaucoup.
On va arriver déjà à notre première pause musicale dans cette interview. Tout de suite, on va écouter Raoul Jazz Clan et leur titre Comme Neige, et on se retrouve juste après pour la suite de cette interview. A tout de suite.
Laisse les s'immiscer entre tes plis pour le plaisir. Je dévie la foudre comme au placé. Je défie la toundra seul sous la lune. Pris dans la glace dans une dernière foulée. Je me fonds dans la masse, l'espérance en lagune. Et toucher la terre ferme pour enfin m'y noyer. Comme neige, du bout du doigt, travail d'orfèvre. En moi ce rêve à la sauvette. Infinie beauté d'après tempête. Comme neige, ma pièce maîtresse même d'un iota. Les bouches féroces, matrioshka blesse. Quand ta voix me laisse maudit, moi je n'ai Dieu pour une traînée d'oud vert de Zoma. De quoi tu parles quand tu pries, de toutes ces larmes qu'on retient quand on serre les dents, quand on n'y voit plus rien mais qu'on n'y pense plus. Si ton cours ralentit, c'est que je perds mon temps. Brouillard immense dans nos pensées, la lune est claire pour nos corps. Ce soir je danse pour ne plus m'effondrer, pour que tu m'en donnes encore. Je veux de cette douceur qui me colle au siège, et sur ta langue laisse fondre la neige. Et j'ai mis tant de temps pour te voir, entre mille dents.
Retour dans votre émission Sortez, toujours avec le Théâtre Olympia sur Radio Campus Tour 99.5 et son directeur Jacques Vincé, qui est donc toujours avec moi. Tout de suite, on va parler d'une actualité un peu moins sympa. On n'aime pas trop en parler, mais bon, on n'a pas le choix. C'est l'actualité, c'est le Covid, forcément. Vous avez l'habitude à l'écoute de cette émission de Sortez qu'on aborde toujours un petit peu ce volet. Surtout que là, on vient de passer en zone rouge depuis samedi. Oui,
oui.
On a reçu l'Espace Malraux en début de semaine qui nous a expliqué que certaines choses devaient être déprogrammées, etc. Est-ce qu'il y a cette crainte au théâtre d'avoir des déprogrammations?
Alors, je dirais, plutôt que de parler de crainte, je dirais, je parlerais d'abord d'audace. C'est-à-dire que, au mois de mars dernier, quand tout s'est arrêté, on avait une programmation qui était, pour la saison prochaine, déjà prête. On est obligé de s'y prendre très longtemps à l'avance. Donc, les 19 spectacles de la programmation de cette saison étaient déjà faites. Ce qui veut dire qu'on avait contacté les équipes en leur disant « Oui, vous viendrez jouer au Théâtre Olympia. » Et il se trouve qu'en plus, dans ce théâtre, il y a la particularité de faire des séries. C'est-à-dire qu'on accueille les spectacles non pas pour une fois, deux fois, mais en général pour une semaine. Donc pour les compagnies, c'est très important d'un point de vue économique et artistique parce que le spectacle devient de mieux en mieux de soir en soir.
Évidemment.
Donc le choix, là, quand je parlais d'audace, c'est-à-dire qu'on s'est dit on parie sur le fait qu'on pourra accueillir ces spectacles la saison prochaine. Évidemment, il y a un risque, comme tous les paris. Là, concrètement, on commence le 29 septembre par un premier spectacle, dans des conditions particulières, puisque la jauge est réduite, les conditions sanitaires nous imposent beaucoup de contraintes qu'on respecte très scrupuleusement, c'est-à-dire qu'on prend très au sérieux cette question sanitaire. Il n'est pas question d'être désinvolte par rapport à des questions qui concernent tout le monde.
Ça fait, ça fait environ 70% de la capacité de la salle, j'imagine, quelque chose comme ça.
Oui, alors on est obligé d'avoir un fauteuil sur deux, sauf pour les groupes. Donc effectivement, vous avez raison, ça fait un petit peu plus d'une demi-jauge quand les gens viennent en couple ou en groupe. Et puis, il y a toute une circulation prévue, très précise, dans le théâtre. Le bar, évidemment, on ne peut pas y être debout. Bon, il y a des tas de contraintes, mais... Encore une fois, on parle beaucoup du Covid, évidemment, on parle beaucoup de la crainte, on parle beaucoup de tout ce qu'on ne peut pas faire. Et je trouve que c'est important que le théâtre Olympia en tout cas, défendant un art vivant, se batte, je dirais presque résiste contre la tendance actuelle et se dise, rendre les choses possibles, essaye au maximum que ce soit possible de se retrouver ensemble pour partager un geste artistique. Et Voilà, cette idée de résistance me semble importante parce qu'on peut se laisser petit à petit grignoter par une morosité et un repli sur soi qui aura, je pense, dans les mois qui viennent, des dégâts collatéraux importants qu'on mesure pas tout à fait maintenant. Et voilà, je pense, je crois que le théâtre est un endroit qui nous rend plus vivants et qu'il faut tout faire pour pouvoir en continuer à présenter, à jouer ces spectacles.
Pour l'artiste que vous êtes, pour le metteur en scène que vous êtes, est-ce que cette période d'incertitude, cette période de crainte aussi globale, est-ce que c'est une source d'inspiration ?
Non, je dirais pas que c'est une source d'inspiration. C'est une source de réflexion. L'inspiration viendra probablement dans un second temps, mais dans un premier temps, alors je vais parler en ce qui me concerne, c'est effectivement plus une remise en question, puisque les choses, en tout cas pendant 3 mois, n'ont plus été possibles. Donc si ça n'est plus possible, ça oblige à se poser la question de la nécessité de ce qu'on fait, du sens de ce qu'on fait, de si ça s'arrête, qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà, je dirais que c'est des plaques tectoniques, des choses très profondes qui se sont déplacées et puis qui évidemment vont avoir des répercussions sur les spectacles que je vais pouvoir monter dans les années à venir. Évidemment que la réalité est tellement puissante à cet endroit-là que l'imaginaire va rebondir par rapport à ça. Mais je dirais pas que dans un premier temps, ça m'a donné des tas d'idées de spectacles et pas du tout. Je me suis dit, voilà, aussi c'est important de... C'était peut-être la chance, en tout cas de ce confinement, que d'avoir un temps blanc. Et dans une époque où on doit toujours colorer tout le temps, très vite, et en passant d'une chose à une autre, à un moment ou à un autre, examiner le blanc et voir comment on réécrit une nouvelle page.
J'imagine que globalement, les comédiens doivent être peut-être inquiets. Est-ce qu'il y a différentes vagues, par exemple avec, je ne sais pas, peut-être des syndicats de comédiens, ce genre de choses, qui se mettent en place pour demander des aides, pour demander un accompagnement, un soutien, parce qu'on se rend compte que ce milieu artistique, globalement, que ce soit le théâtre évidemment, mais même d'autres milieux artistiques, sont assez oubliés dans cette période de Covid.
Oui, il y a eu une grosse mobilisation, et heureusement, et qui pour une bonne partie a eu des effets très favorables en ce qui concerne les intermittents, par exemple. Très concrètement, le report qui a été annoncé de la date anniversaire d'un an. Alors c'est un peu technique, je ne rentre pas dans les détails, mais la réalité c'est que ça sauve des milliers de personnes qui, s'il n'y avait pas eu ces mesures, se seraient retrouvées dans la situation de ne pas pouvoir payer leur loyer. Bon, c'est une situation vraiment catastrophique. Donc il y a des avancées qui ont été actées, et c'est tant mieux. Il y a encore énormément de fragilité à beaucoup d'endroits, parce qu'on parle effectivement... les artistes, mais les techniciens, les prestataires de services aussi, ceux qui travaillent autour des théâtres, qui louent les projecteurs. Enfin, il y a un impact énorme. Et là, je reviens sur le Théâtre Olympia, Centre Dramatique National, service public. On a une responsabilité d'amortissement du choc, et y compris économique. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a été obligé d'annuler les spectacles de la fin de saison, on a payé tous les contrats sur lesquels on était engagé, même si les spectacles ne se jouaient pas, parce qu'on est aussi subventionné pour ça et pour pouvoir faire ce geste de solidarité qui était indispensable.
Évidemment. On va fermer cette page Covid, ça y est, on en a parlé, c'était intéressant. J'ai envie, juste avant d'aborder la programmation et votre spectacle, Les Serpents, parler du public du théâtre. Je sais que dans la tête des gens, dans l'imaginaire des gens, le théâtre, c'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible, alors que la réalité est tout autre.
Oui, c'est vrai que le théâtre souffre parfois d'une image un peu... c'est chiant, c'est pour les vieux...
C'est austère.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut dire deux choses. D'une part, c'est vrai que le théâtre, dont je parlais en début d'émission, les missions de ces centres dramatiques sont un peu particulières. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on essaye d'être à la pointe de ce qui s'invente. Donc, avec la part de risque que ça comporte, avec des spectacles réussis, des spectacles ratés. Donc, effectivement, ça peut être déceptif. Mais c'est très stimulant aussi de voir les choses s'inventer au fur et à mesure. C'est, je dirais quand même, pour être tout à fait honnête, que le théâtre Olympia, c'est un peu l'équivalent du cinéma d'arrêt-essai par rapport au cinéma mainstream et par rapport au blockbuster, ce qui n'empêche pas d'avoir des spectacles qui ont eu énormément de succès et qui se sont joués des centaines de fois en France et à l'international. Mais voilà, on a cette mission-là, on est à cet endroit-là. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a tout un travail qu'on fait autour de la programmation pour aussi aider les gens. Alors, c'est un travail qu'on appelle de médiation. Par exemple, pour l'art contemporain, c'est très important que des gens, tout simplement, nous tendent la main pour nous dire, c'est vrai que même si ce n'est pas d'emblée facile de comprendre ce qui se fait là, en quelques mots, on peut ouvrir des portes, ouvrir des fenêtres et permettre un accès à des choses qui, dans un premier temps, semblaient inaccessibles. Et il y a toute une équipe de relations publiques, par exemple, au Théâtre Olympia, qui travaille en ce sens pour aussi ouvrir ce théâtre à des gens qui, pour des raisons culturelles et souvent, parfois, malheureusement, économiques aussi, se disent « c'est pas pour moi ». Ben si, c'est pour eux. C'est un service public et c'est pour tout le monde. Mais là, pour le coup, il y a un très gros travail, très volontariste, en direction de ces personnes qui, a priori, se sentaient exclues. Et les étudiants, par exemple, c'est vrai que les étudiants, on sait que la vie étudiante est très particulière parce que ou on bosse, ou bien on va boire des coups le jeudi soir rue Colbert ou place Plumeau, ce que je comprends très bien, et que du coup, le théâtre n'est pas forcément dans le logiciel de la vie étudiantine. Mais c'est dommage parce que, alors, le Festival Wet rassemble beaucoup d'étudiants parce que c'est un festival, c'est sur 3 jours, c'est très festif. Mais le reste de la programmation, je pense vraiment, et je le sais, non seulement je le pense, mais on le vérifie, c'est-à-dire qu'on a régulièrement des groupes d'étudiants qui reviennent, qui ont découvert quelque chose auquel ils n'auraient pas pensé a priori. Et c'est, voilà, c'est notre boulot aussi d'aller leur dire, mais si, tentez le coup, venez voir, et puis revenez. En général, c'est le cas.
Ça passe aussi, c'est un travail qui passe aussi par la jeunesse. Est-ce qu'il y a des séances qui sont organisées uniquement à destination des primaires, des collégiens, des lycéens?
Oui, il y a toujours à minima 2 spectacles qu'on appelle « jeunes publics », donc qui sont en direction des primaires parfois, mais souvent collèges. Et là, il y en a 2 la saison prochaine. Et c'est très important aussi d'avoir ces classes, dans tous les sens du terme, ces jeunes classes de spectateurs qui vont aussi être des spectateurs adultes un jour.
Évidemment. On va faire notre deuxième pause musicale maintenant, très rapidement, pour ensuite aborder en profondeur la programmation ainsi que votre pièce, Les Serpents. Tout de suite, on va écouter Les Louanges, Les Yeux Bleus sur la balle.
Garde les yeux sur la balle, se prendre si jette ou bien camper dans l'estrade. Les yeux sûrs, garde les yeux sûrs. Peu importe, garde les yeux sur la balle, se prendre si jette ou bien camper dans l'estrade. Les yeux sûrs, les yeux sûrs. Shoot l'huile sur la maison, le feu est déjà pris mais le temps file, puis j'ai la mèche courte. Busy, busy, au loin le bateau prend l'eau. Les relais qui est en speedboat, chante sérénade, chante, chante sérénade. On signe, chante pour la dernière fois. Je croyais la note encore payable. I guess les vieux mangent à d'autres tables, en d'autres mains. Tombe, cascade séraphin. Le film tire à sa fin. Fait grandir le swipe, swipe, swipe. Ça brille le champagne. De toute façon, on donne une dalle. Je suis serveur, le c'est ça, mais c'est pas grave. Laisse un pourboire sur ton Fisher Price. Peu importe, garde les yeux sur la balle. Tu prends, tu jettes ou bien camper dans l'estrade. Les yeux sur. Garde les yeux sûrs.
les yeux sur la balle. Se prendre du jet ou bien camper dans l'estrade. Les yeux sur. Les yeux sur.
Ça fait longtemps qu'on les utilise plus les liquides et les mêmes le terrain. Ça m'a pris longtemps comprendre que le match se passait pas mal plus d'un gradin. Tanné d'attendre que le coach il dévoile les infos dans le calepin. Dans mon équipe, t'es mon capitaine. Personne n'est choisi en dernier, mais personne n'est choisi en premier. Bah ouais, quand on pratique, c'est ma partie préférée de la game. C'est moi pile mur, fait que c'est un sport d'équipe. Yeah, j'ai manqué d'air pur. Au début du dernier corps, on championne des pires. Vers le podium à l'envers, y'aura de la place pour tout le monde. Big up aux anciens qui faisaient du sport et qui partaient à chasse à la France.
Tout le monde aime un bon vieux décompte. Sur la balle, tu prends, tu jettes ou bien camper dans l'estrade. Les yeux sur, garde les yeux sur. Peu importe, tu gardes les yeux sur la balle. Tu prends, tu jettes ou bien camper dans l'estrade. Les yeux sur, les yeux sur.
De retour dans votre émission Sortez, toujours avec le Théâtre Olympia et son directeur Jacques Vincé, qui est donc toujours avec nous. On va maintenant aborder la programmation du théâtre, mais surtout cette pièce Les Serpents, que vous mettez en scène, Jacques Vincé, qui va donc commencer le 29 septembre, c'est donc très bientôt, c'est dans quelques
dans
jours.
Dans une semaine, un peu moins d'une semaine.
Voilà, un peu moins d'une semaine maintenant. Alors, Les Serpents, qu'est-ce que c'est ?
Les Serpents, c'est une pièce d'une autrice... contemporaine qui s'appelle Marine Diaye, qui est romancière, qui est surtout connue comme romancière parce que elle a eu le prix Goncourt, le prix Femina pour un roman qui s'appelle Trois femmes puissantes et le prix Femina pour un autre roman qui s'appelle Rosie Carpe. Mais elle écrit aussi régulièrement du théâtre et entre autres cette pièce qu'on m'a conseillé de lire. Très honnêtement, je ne connaissais pas cette autrice, je n'avais pas lu ses romans. Et j'ai lu cette pièce et j'ai eu un coup de cœur comme malheureusement, ce n'est pas si courant, les coups de cœur, où on se dit, oula, il y a quelque chose qui l'a autant au niveau de l'écriture que de ce dont ça parle, qui me touche très profondément. Et après tout le travail de... Donc, un désir de mettre en scène ce texte, mais ce désir de mettre en scène ce texte passe par le fait qu'il y a des tas de... On se dit qu'avec un texte comme ça, on va pouvoir chercher avec une équipe. Le théâtre est un art collectif, c'est-à-dire qu'il y a un metteur en scène, mais qui rassemble une équipe autour de lui, qui font la scénographie, la lumière, le son, et évidemment les acteurs, et en l'occurrence là les actrices, parce que c'est une pièce pour trois femmes. Et donc, voilà, on est parti dans cette aventure. C'était il y a 2 ans, ça c'est toujours très long, la maturation d'un projet. Là, on est dans la toute dernière ligne droite, et... Cette impulsion, ce coup de cœur dont je parlais tout à l'heure du départ ne s'est pas démenti et c'est je trouve un texte extrêmement puissant pour trois femmes puissantes qui sont sur le plateau. Et
ces femmes, ces femmes, comment les avez-vous sélectionnées ? Comment ça se passe ? Il y a un casting, j'imagine ?
Alors... Non, il n'y a pas vraiment de casting. Casting, c'est plus pour le cinéma, quand on cherche des gens très particuliers, qu'on ne connaît pas. Au théâtre, le plus souvent, et là, en l'occurrence pour cette pièce, très vite, quand j'ai lu la pièce, j'ai pensé à 3 actrices que je connaissais, que j'avais vues jouer, dont une avec laquelle j'avais déjà travaillé, mais les autres, je n'avais jamais travaillé avec elles. Je les avais simplement vues dans des spectacles d'autres metteurs en scène. Donc, c'était un désir fort de proposer ce texte, ce personnage à une actrice et de composer un trio, parce que c'est très important aussi parce que parfois il arrive qu'on ait 3 artistes formidables mais qui ne parlent pas la même langue d'une certaine manière. Oui. Donc, et là c'est pas le cas, c'est un trio en plus qui humainement fonctionne très bien et qui du coup il y a une émulation artistique formidable et ce travail de répétition depuis maintenant plus de 4 semaines est extrêmement heureux parce que on m'offre sur le plateau un talent, une intelligence, une énergie, une sensibilité qui me permet de pousser encore plus loin les rêves que j'avais eus en lisant cette pièce au tout départ.
Quelle est l'intrigue de cette pièce? Comment ça se passe si on décide donc d'aller voir ce spectacle qui dure apparemment donc environ 1h45? Qu'est-ce qu'on va découvrir comme intrigue?
Alors l'histoire de cette pièce, elle est à la fois très simple, et c'est là que la pièce est passionnante, c'est qu'on se rend compte que sous cette simplicité, il y a des tas d'obscurité, de doutes, de mystères, de fantastiques qui sont juste en dessous, et donc des tas d'histoires qu'on peut se raconter à côté de l'histoire. L'histoire, en fait, elle est assez simple. Ça se passe au milieu de champs de maïs, devant une maison, un jour de 14 juillet, sous un soleil de plomb, et sur le seuil de cette maison, on d'abord se rencontrer une femme qui est venue réclamer de l'argent à son fils, une situation très triviale. Elle est dans une situation difficile, elle vient demander de l'argent à son fils, et l'entrée de cette maison lui est interdite par la femme de ce fils. Il lui dit « Non, 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 il ne faut pas rentrer, il ne faut pas rentrer. » Et toute la pièce va se passer comme ça, sur ce seuil, avec cette femme de l'homme qui est à l'intérieur, la mère de l'homme qui est à l'intérieur, et l'ex-femme de cet homme, toujours ce même homme, qu'on ne verra jamais. C'est là que, quand je disais, on peut se raconter des histoires, c'est-à-dire que cet homme, elles peuvent raconter, en fait, ce qu'on sait de cet homme, c'est parce qu'elles en ont raconté, les histoires qu'elles en ont faites, et les histoires sont assez terribles, puisque, en fait, on apprend que cet homme a eu, avec son ex-femme, un fils qu'il a battu et qu'il a fini un jour, par désespoir, parce que sa femme l'avait quitté, par enfermer dans une cage avec des serpents, d'où le titre. Donc un fait divers sordide, mais quand je parlais des différentes strates, c'est que cet homme, dans la manière dont il est raconté par ses femmes, prend la figure de personnages mythologiques ou de contes de fées. L'écriture de Marine Diaye est très nourrie des contes de fées, et par exemple cet homme et potentiellement un ogre aussi qui dévore ses enfants. Et tout le travail qu'on a fait, c'était de pouvoir entendre cette première couche du fait divers, mais aussi toutes les résonances. Je parlais de fantastique tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a, on parle souvent, par exemple, des films de Stephen King, des films fantastiques, des films, des thrillers. Il y a un suspense, il y a un mystère, qui fait qu'on est accroché à savoir mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui va se passer, jusqu'où ça va aller. Voilà, donc c'est une histoire terrible, mais très vivante et très, parfois, drôle, parce qu'on sait que quand on est aux limites de l'horreur, le rire est la seule manière de se sauver.
Donc même dans le théâtre dramatique, dans le Centre Dramatique National, il y a de l'humour quand même.
Ah ben on essaie d'en avoir, sinon, mais dans la vie déjà en général, mais évidemment que dans un endroit comme celui-là, le rire est une manière de résister aussi, et c'est peut-être une transition pour vous parler de la programmation, le rire de résistance. Je parlais tout à l'heure de résistance par rapport au Covid, et au fait que c'est un art vivant et que il faut résister à la tentation de repli qui nous tombe sur les épaules. Le rire de résistance, c'est un concept qui a été développé par quelqu'un qui s'appelle Jean-Michel Ribes, qui est directeur du théâtre de Rond-Point à Paris, qui revendique le fait de rire, c'est une manière de pouvoir faire des pas de côté par rapport à un esprit de sérieux qui nous enfermerait. Et donc, ce Jean-Michel Ribes vient présenter une pièce qui s'appelle Cadoc, une pièce sur le monde du travail, mise en scène à partir d'un texte de Rémi DeVos, qui est un auteur contemporain, là encore une fois, qui a écrit beaucoup sur le monde du travail. Mais c'est vrai que l'esprit de sérieux, monde du travail, ça peut être aussi ennuyeux que le travail, parfois. Mais quand c'est légèrement décalé, ça peut devenir à hurler de rire. Et là, en l'occurrence, c'est une comédie, vraiment, c'est une comédie jubilatoire qui... Tout à l'heure, je parlais aussi de bouquets de programmation. Dans la programmation de la saison prochaine, il y a cette pièce qui est vraiment une pièce où on rit, ce qui n'empêche pas de réfléchir.
Évidemment. La programmation est très chargée. Vous avez donc 19 spectacles, c'est ça, de proposer
oui.
au Théâtre Olympia.
Oui.
Il nous faudrait des heures pour pouvoir en parler en profondeur de chacun de ces spectacles. Lequel voudriez-vous mettre en avant pour nos auditeurs avec lequel on sait que vous êtes, les appréciez tous, évidemment, c'est pas, l'objectif n'est pas
oui,
du tout de les classer.
C'est une question difficile.
Mais s'il y en a un que vous voulez présenter parce que vous avez une sensibilité particulière ou parce qu'il y a une particularité, peut-être?
Alors, je vais parler d'un spectacle qui s'appelle Jeanne d'Arc. Mais d'Arc, ça s'écrit D-A-R-K.
D'accord.
Et qui est mis en scène par une jeune metteur en scène qui s'appelle Marion Sieffert, qu'on avait accueillie pendant le festival WET dont je parlais tout à l'heure, ce festival de jeune création, donc de tout premier geste artistique, et qui avait fait un spectacle très particulier parce que c'était un spectacle qui jouait avec Facebook. C'est-à-dire qu'avant le spectacle, elle consultait les profils des spectateurs et pendant le spectacle, elle jouait avec leurs profils en rediffusant certaines choses. Il y avait une interaction entre les gens qui étaient dans la salle et le spectacle et son intrusion, en fait, dans les profils des spectateurs qui était assez troublant. Et là, elle travaille donc sur le personnage de Jeanne d'Arc, bien connu, mais par le biais d'une jeune adolescente orléanaise qui a, comme Jeanne d'Arc à son époque, des problèmes avec sa famille et qui essaie de s'émanciper et qui essaie de proposer autre chose, sinon qu'elle est prise dans, encore une fois, ce monde des réseaux sociaux et de l'image, son pseudo sur Instagram est Jeanne d'Arc, et elle est confrontée à ce qui se passe parfois, des attaques très virulentes de la part de groupes divers et variés. Et du coup, voilà, c'est l'histoire de cette jeune adolescente qui revendique ce personnage historique, mais un peu comme on prend un pseudo, et qui va se retrouver au cœur d'une tourmente. Et c'est un spectacle qui aura la particularité d'être sur le plateau du Théâtre Olympia et certains soirs, en même temps, en direct sur Instagram. Donc voilà, c'est une forme tout à fait nouvelle, tout à fait... Enfin, c'est une artiste qui cherche là, dans ce qu'on utilise tous les jours, comment on peut en faire du théâtre.
Donc elle est très ancrée, elle a vraiment une volonté profonde de travailler avec les réseaux sociaux.
Oui, c'est vraiment au cœur de son spectacle, c'est même, je dirais, presque l'enjeu principal. Comment les réseaux sociaux nous augmentent et comment aussi ils peuvent nous détruire et comment on arrive à se situer par rapport à tout ça. Donc Jeanne d'Arc, ça sera en fin de saison, au mois de mai prochain. Mais c'est un des spectacles qui est en création, donc je ne l'ai pas encore vu. J'ai rencontré cette metteur en scène plusieurs fois et je crois beaucoup en son travail, en sa recherche, en sa sensibilité. J'attends ce spectacle avec impatience.
Donc évidemment, n'hésitez pas à retrouver toute cette programmation sur votre site internet, qui est donc cdntour.fr, à retrouver pour toute cette programmation en détail. On va peut-être rappeler rapidement les infos pratiques, si je puis dire, du théâtre. Alors, où se situe-t-il ?
Alors, il se situe 7 rue de Lucé, qui, comme je disais tout à l'heure, est une petite rue parallèle à la rue nationale, ou à la red tram nationale. C'est très facile à trouver et c'est un très beau lieu.
Effectivement. Le premier spectacle qui sera donc proposé sera donc Les Serpents, votre pièce, à partir du 29 septembre. Donc
mardi prochain.
Ça arrive très bientôt. Il y aura donc de nombreuses représentations pendant plus d'une semaine, c'est ça, à peu près
une dizaine de jours, et jusqu'au 8 octobre.
Tous les soirs, à retrouver évidemment entre 20h et 19h. Voilà. Et on n'a pas parlé des tarifs. On parlait tout à l'heure de certains clichés sur le théâtre, que ça coûtait très cher, certains avaient cette vision-là. Finalement, est-ce que c'est si cher que ça, le théâtre ?
Ben non, c'est pas si cher que ça. Encore une fois, on est un théâtre spécifique, puisque c'est un théâtre de service public, donc on est subventionné, donc on fait aussi des tarifs. Là, par exemple, très concrètement, pour les étudiants, les places sont à 8 euros. Donc,
c'est abordable. Un ticket de cinéma.
Ouais. Exactement. Et puis, pour les moins de 30 ans, pour les chômeurs, service civique, il y a des tarifs particuliers. Et puis pour les spectateurs, les autres spectateurs, il y a à la fois le prix de la place quand on prend une place comme ça le soir même, mais il y a aussi des formules d'abonnement qui permettent de réduire les coûts, des tarifs pour les groupes aussi. Et ça, on en a beaucoup de groupes, de gens qui viennent au théâtre. C'est une manière de se retrouver ensemble. Donc voilà, on a toute une politique qui permet, qui rend, je crois vraiment, le théâtre accessible d'un point de vue économique.
Donc voilà, donc pas d'excuses, rendez-vous au Théâtre Olympia pour retrouver toutes ces pièces tout au long de l'année. Merci beaucoup Jacques Vincé d'avoir été avec nous, d'avoir été sur Radio Campus. C'était une très belle émission et tout de suite on fait une nouvelle pause musicale. Ne quittez pas Radio Campus Tour, ne quittez pas votre émission Sortez. On se retrouve juste après cette pause musicale pour la conclusion de cette émission. Et tout de suite on écoute le titre Amami du groupe Giant. A tout de suite. De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM pour la fin de cette émission Sortez. J'espère que c'est une émission qui vous a plu. Évidemment que vous pouvez la retrouver en podcast sur notre site internet radiocampustour.com. Tout de suite, vous allez pouvoir entendre la rediffusion de La Méridienne à partir de 17h. Donc, puis à 18h, vous retrouverez le Flash Info RFI. Et à la fin, juste après ce Flash Info RFI que se termine aux alentours de 18h15, vous retrouverez, comme chaque jour, évidemment, le Ghetto Blaster. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt dans votre émission Sortez. Salut!
Radio Campus Tour, 99.5.
Et sur internet, radiocampustour.com.